Bienvenue dans le podcast de Positive Compagnon, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous allons aborder les enjeux RSE dans un secteur que nous n'avons pas encore couvert dans ce podcast. L'optique et l'aide à l'audition. Les entreprises de ce secteur ont un rôle crucial dans la santé visuelle et auditive des individus. Et leurs engagements dans la RSE est de plus en plus important et structuré. Au-delà de leur mission, leurs enjeux touchent différents domaines plus conventionnels, tels que la gestion des déchets, l'approvisionnement responsable, la sécurité des produits et la protection de l'environnement. En effet, les opticiens peuvent avoir un impact significatif sur l'environnement en raison de l'utilisation de matériaux tels que le plastique, le verre, les métaux, le bois, ainsi que par la production de ces deux déchets. Ils peuvent également avoir un impact social en termes de respect des droits des travailleurs, de lutte contre les discriminations et de contribution au développement local. Nous avons la chance aujourd'hui de recevoir Frédéric Beausoleil, artiste lunetier depuis plus de 30 ans, si je ne dis pas de bêtises, français, qui imagine et dessine toutes les collections optiques, solaires et auditives de la marque Acuitis. Frédéric, bonjour. On est ravis de vous accueillir dans ce podcast. Est-ce que vous pourriez vous présenter succinctement ?
Bonjour Charles. Alors, je suis Frédéric Beausoleil. Je suis créateur de lunettes et fabricant de lunettes depuis un peu plus de 35 ans. J'ai débuté ma carrière en rachetant un très vieil atelier de lunetterie traditionnelle sur des matériaux d'origine animale comme les lunettes étaient fabriquées au début du siècle et au siècle dernier. J'ai créé mes collections que j'ai vendues dans le monde entier et que je continue de vendre dans le monde entier. J'ai fait de nombreuses collaborations avec des chaînes d'optique aussi variées que Grand Optical, Optical Center, Optique 2000, Chris ou la Générale d'Optique. Et puis j'ai aussi collaboré dans le monde du luxe avec la société Cartier pendant 5 ans et avec toutes les premières collections de la société Louis Vuitton pendant 5 ans aussi. Et puis, il y a maintenant 13 ans, nous avons créé avec la famille Habitant le concept d'optique et d'audition Acuitis.
Voilà. Est-ce que vous pourriez justement nous présenter Acuitis ? C'est un concept qui, à l'époque, était assez révolutionnaire, il me semble.
Oui, c'était un concept révolutionnaire en cela... Il existe de nombreuses chaînes d'optique en France et tout le monde en est le témoin. Ces chaînes d'optique sont plutôt multi-marques et vendent des marques très différentes les unes des autres. Des marques de créateurs, mais aussi des marques de luxe, des marques de mode. Et donc, l'optique est devenue très consumériste, si je peux m'exprimer ainsi, en oubliant un peu la dimension artisanale de ce métier qu'est opticien lunetier. Donc les gens se présentent en étant des opticiens, mais plus du tout lunetiers. Et Acuitis, c'est la volonté de remettre en avant tout ce qui fait la noblesse du travail d'opticien lunetier. Donc j'insiste beaucoup sur le mot de lunetier. Et un premier parti pris chez Acuitis très fort, nous n'aurons aucune marque. Et donc, tous les modèles qui sont en vente dans nos maisons sont dessinés par moi et mes équipes de designers et sont fabriqués alors en global sourcing au Japon, en Chine, en France, en Italie. Mais tous nos produits portent véritablement le nom Acuitis et toutes sont dessinées par nous. Et puis Acuitis, c'est singulier parce que on a associé à ce métier traditionnel de l'optique, on a associé l'audition Daniel Habitant a vu il y a 13 ans, bien évidemment, ce besoin de santé publique qui était mal géré, mal traité, en tous les cas pas avec la bienveillance dont savent faire preuve les opticiens en ce qui concerne les problèmes et les corrections sur la vue. Et on a créé ces maisons d'optique et d'audition. Donc, on est vraiment natif de ces deux métiers.
Frédéric, je ne peux pas m'empêcher aujourd'hui, en ayant une personne avec l'historique que vous avez connu dans ce monde de la lunette et puis plus récemment dans l'audition, est-ce que vous pourriez nous faire un petit historique de ce qui s'est passé dans ce secteur qui a été clairement chamboulé sur ces 20 dernières années, je dirais. Hein. On parlait notamment de la crise des subprimes qui a été un élément déclencheur, mais au préalable, vous qui avez vu peut-être un certain nombre d'usines fleurir en France et pas aussi dans d'autres pays comme l'Italie qui font partie des pays les plus avancés sur ces sujets-là, quelle est l'histoire entre guillemets de la lunette? Comment la lunette s'est développée, cette industrie s'est développée sur les 20-30 dernières années?
Alors, sur les 20 et 30 dernières années, il y a eu une véritable révolution en optique, d'abord par rapport à l'offre. Avant, il y a 30 ans, il y avait une dizaine de créateurs, et puis il y avait quelques marques majeures, et puis il y avait des marques historiques de lunetiers que tout le monde connaît, comme Ray-Ban, comme Persol. J'en cite quelques-unes parce qu'elles sont dans la conscience collective de tout le monde. Et donc, c'était un métier de spécialiste avec des grandes marques qui concédaient l'exploitation de leur nom à des usines. Il y avait des pays leaders. L'Europe était leader en matière de fabrication il y a 30 ans. La France était le premier pays au monde en matière de fabrication de lunettes, principalement situé dans le Jura.
Usine, hein, vous disiez dans les années 80, 177 usines dans les années 80.
177 usines, et moi j'ai par exemple créé mon usine en 1990, que j'ai mis dans ma ville natale qui est Nantes, donc très loin du berceau de la lunetterie, mais j'ai eu la chance de vendre ma marque de créateur dans le monde entier en direct, et donc d'alimenter mon usine, et mon usine a pu survivre, mais le tissu industriel français de la lunette, ce n'est maintenant plus que 15 usines.
Donc, qu'est-ce qui s'est passé
versus 177? Ben, il s'est passé que la France a eu une politique industrielle que je trouve personnellement désastreuse. Les 35 heures n'ont pas aidé des métiers où il y a beaucoup, il y a besoin de beaucoup de collaborateurs pour fabriquer ces objets. Hein. Une lunette, c'est 80 opérations industrielles et manuelles. Et donc, tous les métiers manuels en France, sur les 30 dernières années, ont été très pénalisés par les 35 heures, l'autorisation administrative de licenciement, une imposition sur le travail, où on est toujours dans les deux premiers leaders mondiaux, une taxation de l'impôt sur les fortunes, et donc on a taxé les familles d'industriels qui n'ont pas pu réinvestir dans leur outil de production, et puis une concurrence qui s'est développée extrêmement forte. Les sociétés françaises n'ont pas délocalisé en Chine. Les Italiens, par exemple, ont délocalisé en Chine. Et donc, on sait très bien que délocaliser en Chine, ça tue de l'emploi industriel dans le pays, mais ça maintient les emplois dans les services. L'Italie a eu cette souplesse et en plus a une politique industrielle nationale beaucoup plus favorable. La Cador, qui est la région industrielle de la lunette, a été défiscalisée par l'Europe, défiscalisé par le gouvernement italien. Les entreprises italiennes, il y a 30 ans, avaient 30% de leur masse salariale au black. Donc la France, les industriels français étaient dans un carcan administratif et fiscal terrible. De l'autre côté de la frontière, en Italie, on était dans la souplesse et dans l'innovation. Et donc,
c'est aussi la résultat, force des droits de l'homme. Bien sûr, après, c'est la force des droits de l'homme qui fait aussi notre richesse, notre culture RSE aujourd'hui, mais effectivement, par rapport à une compétition internationale qui ne joue pas le même jeu, finalement, parce que le débat, il est surtout là, c'est compliqué de survivre dans un univers purement industriel et qui consomme énormément de ressources humaines, hein, j'ai envie de dire. On voit, vous parliez tout à l'heure de qu'une lunette, c'était 80 opérations. J'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet, là, aujourd'hui. Il y a certaines contraintes ou lois qui sont tombées comme la loi AGEC, etc., où on commence à intégrer des notions d'éco-conception dans les produits et même dans les services, évidemment. Ça consiste en quoi concrètement l'éco-conception d'une lunette? Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception d'une lunette? Et si jamais on peut aussi aller jusqu'à l'éco-conception, je ne sais pas si on arrive encore à ce niveau-là dans le monde de l'audition, qui est un monde aujourd'hui très technologique aussi, mais qui va peut-être encore plus rechercher dans l'immédiat la performance. On va dire du produit plus que sociétal ou environnemental. Donc, si on pouvait avoir votre vision aujourd'hui, qu'est-ce que c'est qu'une lunette éco-conçue? Votre définition d'une lunette éco-conçue?
Bien sûr. Alors, pour être dans la continuité, Je vais d'abord traiter l'audition. Depuis 30 ans, l'audition a fait des progrès technologiques absolument formidables parce que les appareils intègrent maintenant des microprocesseurs qui permettent d'adapter et de personnaliser l'aide auditive en fonction des besoins auditifs de la personne, mais aussi de ses besoins personnels, sociétaux et professionnels. Donc les aides auditives se sont personnalisées et leur performance en termes d'apport, c'est un saut quantique par rapport aux appareils d'il y a 30 ans. C'est vraiment une révolution majeure. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant parfaitement à équiper les gens et les gens gardent leurs aides auditives et sentent un vrai progrès. Et les gens acceptent aussi cette cécité et n'hésitent pas à s'équiper parce que les appareils se sont miniaturisés et sont beaucoup plus discrets, alors qu'à une époque, ils étaient très stigmatisants de par leur aspect peu esthétique. Pour l'optique, l'évolution sur les 30 dernières années et les grands enjeux de l'éco-conception, eh bien, c'est le résultat de cette transformation industrielle. Et le résultat de cette transformation industrielle vient du fait que 95% des montures sont fabriquées maintenant en Chine. Et ça pose des problèmes RSE absolument terribles. Les industriels ont beaucoup délocalisé, voire en France ont disparu parce qu'ils n'ont plus été compétitifs. Comment peut-on se projeter dans l'économie circulaire en achetant 95% de ces montures en Chine? Même si les usines ont un niveau de performance et de qualité et de traitement social qui est tout à fait responsable, hein. Moi, j'ai visité les premières usines que j'ai visitées en Chine il y a 20 ans. Elles étaient bien plus robotisées, bien mieux organisées et bien plus propres que les usines que je visitais en France ou qui subsistaient en Europe. Donc, les grands enjeux viennent d'abord dans la relocalisation de la production dans le tissu industriel qui reste et qu'il va falloir à nouveau faire progresser. Mais c'est là notre responsabilité, ma responsabilité de designer, c'est de créer des produits qui tiennent compte des enjeux de l'économie circulaire. Alors, par exemple, il y a la loi, les normes riches européennes qui nous imposent de travailler des matériaux vertueux qui ne contiennent pas d'éléments chimiques nuisibles pour l'homme. Et donc, on travaille le plus possible chez Acutis avec des matières nobles, du coton, mais aussi des polyamides biosourcés, mais aussi un travail sur les matériaux. On fait beaucoup de recherche et développement en créant ce qu'on appelle des compounds, c'est-à-dire des matières nobles dans lesquelles on arrive à intégrer des éco-matériaux. Par exemple, la loi AGEC qui va obliger les industriels de fabrication d'objets ou de pièces plastiques d'intégrer des éco-matériaux, c'est-à-dire des matières recyclées à hauteur de 30% avant 2030 dans leur production moderne. Eh bien, nous, chez Acutis, par exemple, on intègre avec de l'acétate de cellulose des résidus de cuir. Et comme ça, on permet aux industriels que sont les tanneurs de recycler leurs résidus de cuir plutôt que de les jeter ou de les brûler. On intègre aussi en éco-création, il y a une loi qui interdit à l'industrie agroalimentaire de jeter les coquilles des coquillages à la mer comme c'était fait jusqu'à présent. Et donc, l'industrie qui utilise la moule, l'huître, la coquille Saint-Jacques ne peuvent plus rejeter des milliers et des milliers de tonnes de coquilles au large qui vont faire mourir les fonds marins. Ils ont l'obligation d'éliminer ces matières premières, ces déchets, ces résidus. Alors, c'est du calcaire, hein, le coquillage. Généralement, c'est enfoui, mais bien souvent, c'est brûlé. Donc, c'est vraiment une très mauvaise très mauvaise façon d'éliminer ce résidu ou ce déchet. Nous, ces coquillages, on les broie, on travaille la nacre de coquillage qu'on associe à la fleur de coton à hauteur de 30% pour faire un éco-matériau dans lequel on va fabriquer nos lunettes dans notre usine de Nantes. Et donc là, on est complètement dans le sens de l'économie circulaire.
Et alors, puisqu'on parle de produits recyclés, de matières recyclées, pardon, est-ce qu'il y a la possibilité aujourd'hui de recycler des lunettes ?
Alors, on peut recycler des lunettes. Et je dirais, dans mon travail d'éco-matériaux, c'est une réflexion qu'on travaille beaucoup en ce moment. Alors, on est encore dans on est quand même très leader et très précurseur dans ce domaine. Par exemple, on fabrique chez Acutis des lunettes en filet de pêche recyclé. Par exemple, la pêche française,
c'est pollution mondiale de plastique.
Oui, c'est 800 tonnes de filets à recycler chaque année pour les ports de la façade ouest, tous les ports côté Atlantique.
Ça fait un paquet de lunettes, ça, quand même. Hein.
Ça fait un paquet de lunettes, parce qu'il y a 10 grammes de filets de pêche recyclés dans une lunette. Mais on fait aussi des étuis. Par exemple, les étuis, 100% des étuis donnés dans les magasins d'optique, quand on achète sa paire de lunettes, ces étuis sont donnés. Hein, eh bien, 100% de ces étuis sont fabriqués en Chine. Il n'y a plus de manufacture d'étuis en Europe, plus du tout. Et donc, on fabrique maintenant ces étuis avec du granulat fabriqué à partir de filets de pêche recyclés. Ils sont fabriqués et injectés dans une usine spécifique en Loire-Atlantique. Et donc, c'est autant d'étuis qu'on va importer en moins par le transport maritime. Et donc, chez Acutis, on va vendre 250 000 paires de lunettes cette année. C'est 250 000 étuis qu'on devrait faire venir par container. Eh bien, cette année, on fait le pari que 30% de nos clients à qui on va donner le choix, l'étui maroquinier made in China ou l'étui fabriqué à partir de filets de pêche recyclés et 100% recyclables.
On pourrait aussi imaginer pas d'étui. On en a tous déjà dans nos maisons, que ce soit pour les lunettes de vue, lunettes
alors
de soleil.
Vous avez complètement raison. Et on vient de finir un travail sur un étui berlingot fabriqué en carton recyclé, toujours fabriqué en Loire-Atlantique. Et on va donner la possibilité à notre client de choisir soit un étui rigide parce qu'il le souhaite, made in France ou made in China, ou alors le petit étui berlingot en carton qui lui permet de ranger sa lunette pour ne pas rayer les verres et qui, une fois chez lui, pourra mettre cet étui en carton dans sa corbeille de recyclable. Donc, l'éco-conception, vraiment, on la travaille à 100% dans ce domaine. Et il y a mille façons de faire cela, mille façons.
Alors, si on va continuer dans cette logique de meilleure utilisation d'un produit, est-ce qu'il existe dans vos gammes la possibilité d'avoir des réparations de lunettes, peut-être même à vie, plutôt que de devoir acheter régulièrement des
bien
lunettes
hein,
est-ce qu'il y a une solution aujourd'hui qui pourrait exister d'avoir une lunette peut-être plus robuste que les autres, avec des montures et des mécanismes qui soient plus robustes, qui permettraient d'éviter de racheter des lunettes et juste changer les verres s'ils sont rayés ou cassés quoi.
Bien sûr, et là on atteint la durabilité du produit et sa réparabilité, dont on commence à entendre parler au travers de nos appareils électroménagers. Sachez que chez Acutis, c'est vraiment quelque chose que l'on a à cœur, puisqu'on est opticien, mais lunetier. Et donc, lunetier, on conçoit des collections et des objets lunettes qui ont des valeurs de réparabilité. Donc, on peut parfaitement changer une branche, changer une face. On n'est pas dans la philosophie du jetable. Hein. Ça, c'est très, 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 très important. C'est comme la matière plastique. C'est une matière géniale. mais qui a pu permettre à l'homme une expansion extraordinaire au cours du XXe siècle. Et au XXIe siècle, on a vu avec le Covid que cette matière, elle a été salutaire pour l'humanité, parce que sans plastique, nous n'aurions pas pu nous protéger contre le virus. Mais ce qui était pernicieux au XXIe siècle, c'est qu'on était dans cette frénésie de consommation sans vision de la fin de vie des produits. Le plastique, c'est formidable si on sait gérer sa fin de vie, que ça soit du sac plastique jusqu'à la lunette plastique. Et donc, l'un des grands enjeux qu'on va avoir à mener chez Acuity, c'est pas seulement la réparabilité de nos produits qui existent déjà, c'est aussi, en termes de business model, d'accompagner nos clients pour leur expliquer qu'il faut peut-être acheter une lunette un tout petit peu plus chère parce qu'elle est conçue de façon circulaire dans son choix de matériaux, dans son lieu de fabrication et dans la fin de vie qu'on va proposer au client. Hein, et ça, c'est important. Et on a identifié là déjà trois fins de vie. Le produit que nous rapporte notre client et qui sera trop dégradé, mais qu'on va lui proposer de le recycler pour créer un matériau qui va servir à faire autre chose, ou alors un produit que l'on va pouvoir réparer et nettoyer afin de lui donner toutes les qualités physiologiques et de neutralité pour être revendu comme de la seconde main, ou un produit qui pourra être, lui, dirigé vers des actions plus humanitaires, comme on le fait déjà.
Alors, on a beaucoup parlé d'optique, mais de manière un peu moins commune, j'aimerais qu'on aborde aussi le sujet de l'audition. Comment c'est fait, un appareil auditif aujourd'hui? C'est fabriqué, de quoi c'est composé?
Alors, c'est principalement fabriqué dans les pays européens. L'Europe est leader en matière d'aide auditive. Les Japonais sont pas mal. Je dirais que les grands fabricants européens qui sont à l'origine de toutes les grandes innovations, c'est-à-dire des grandes innovations digitales, sont plutôt d'origine du Danemark, d'Allemagne et d'Autriche. Ces sociétés ont bien sûr leur centre de recherche en Europe. Ils ont aussi des unités de production européennes. Mais il faut le savoir, ils ont des unités de production en Amérique du Nord et bien sûr en Asie. Alors, une aide auditive, on est vraiment dans un très petit objet. La coque de cet objet, je dirais que sa coquille, elle est fabriquée en polyamide. Alors, le polyamide, il peut être biosourcé ou d'origine pétrolière. C'est ce qu'on appelle généralement le nylon. Donc, c'est quelques grammes, c'est une coque qui est très précisément injectée ou imprimée en 3D aussi. Et puis, à l'intérieur, il y a un microprocesseur qui va gérer des micros. Et ce microprocesseur, il est programmable, et c'est ce qu'il y a de génial maintenant dans l'audition, c'est que vous pouvez programmer le microprocesseur en fonction des besoins auditifs de la personne.
Et de son environnement, peut-être aussi, non ?
Et de son environnement. Par exemple, une femme âgée qui vit seule dans son petit appartement, elle va avoir un besoin auditif qui va être celui d'écouter la radio dans sa cuisine et de bien entendre sa télévision. Et puis aussi de participer à un repas familial et d'échanger avec ses petits-enfants, par exemple. Et puis, on a l'aide auditive d'une femme de 50 ans, chef d'entreprise, qui anime un conseil d'administration de 30 personnes, qui est mélomane et qui va trois fois à l'opéra par an. Et donc là, bien sûr, les aides auditives et les besoins auditifs sont très différents. Mais aussi le restaurateur qui entend des bruits de casseroles, de verres, de couverts et d'assiettes toute la journée. Tout ça, l'aide auditive va pouvoir être programmée pour idéaliser véritablement son confort auditif.
Et peut-être aussi une batterie, je suppose, pour tout ça.
Alors oui, des batteries qui peuvent soit changer, mais qui sont maintenant rechargeables par induction.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Cette batterie, demain, l'appareil auditif tombe en panne, la batterie ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on fait? On change tout? On arrive à la remplacer?
Alors, les équipements sont relativement chers, hein, même avec la loi du 100% santé votée par le gouvernement Macron. Les prix ont quelque peu baissé dans l'audition, mais en gros, on est à peu près à 1000 euros l'appareil, hein, puis dans le haut de gamme à 2000 euros l'appareil. Donc, les gens sont assez précautionneux de leurs appareils. Même si les mutuelles remboursent une grosse partie de ces appareils, les gens sont assez précieux. Et puis, on équipe à partir de 65 ans. Et donc, les gens à 65 ans sont plus ou moins précieux, hein, ou consciencieux avec leurs appareils. Les femmes, un peu plus que les hommes, comme d'habitude. Mais disons que il n'y a pas de phénomène de mode. Donc, la durée de vie de l'aide auditive est à peu près de 5 ans, alors que la durée de vie d'une lunette est à peu près de 2 ans en France.
Et là, on est donc justement dans les problématiques de déchets électroniques derrière. Bon, je connais bien le sujet. Nous, on sait que le recyclage des déchets électroniques, ça n'existe quasiment pas, malheureusement, surtout sur des appareils de ce type-là. Qu'est-ce que vous faites de ces appareils derrière? Est-ce que vous avez des solutions de récupération ou
En
malheureusement
fait,
pas grand-chose?
quand nous les récupérons, nous les restituons aux fabricants, parce que ce sont les mieux placés pour démonter les appareils. Les coques sont généralement broyées et les microprocesseurs sont récupérés par le fabricant. Mais je n'aurai pas la traçabilité véritablement de ce qu'ils font. Je sais que les microprocesseurs et les circuits imprimés, généralement dans l'électroménager ou dans les ordinateurs, maintenant que les métaux précieux valent si cher, qu'ils soient issus des terres rares ou platinium, or, argent, zinc, cuivre, il y a des filières qui se mettent en place quand même, qui sont très significatives. Les normes REACH, la loi AGEC oblige beaucoup les industriels à recycler leurs matières. Par exemple, 70% de l'aluminium produit dans le monde est d'origine recyclée. Pour l'acier, c'est presque 50%. Nous, en France, quand on recycle les lunettes qu'on récupère ou celles qu'on souhaite recycler véritablement, eh bien, on trouve des filières de recyclage naturel pour le cuivre, pour le titane, pour l'inox. On n'a pas de problème pour ça. Par contre, on avait un problème sur l'acrylique. Nos verres de présentation, vous savez, les lunettes sont présentées avec des verres de présentation. Ces verres sont fabriqués en acrylique. Il n'existait pas en France de filière de recyclage de l'acrylique. Le gouvernement Macron a voté un budget au début de sa première année d'élection et il y a un leader mondial qui est une société française, Paprex pour ne pas la citer, qui a mis au point une filière du recyclage des verres de présentation et maintenant dans mon usine de Nantes, on recycle 100% des poudres d'usinage des verres de présentation et toutes nos maisons Acuitis collectent les verres de présentation que l'on recycle en fin d'année. Et donc, ça, c'est bien parce que Paprex récupère ses verres de présentation, les broie, régénère un granulé qui va servir à fabriquer un autre objet par l'injection.
Et est-ce que vous observez aujourd'hui des tendances dans votre secteur sur ces sujets-là? Alors, vous avez pu nous présenter vos innovations à vous, finalement, et vos chantiers. Est-ce qu'ils vous identifiez chez vos confrères, que ce soit chez Chris, Optique 2000, etc., d'autres sujets intéressants ou d'autres bonnes pratiques, peut-être, ou même des tendances
Absolument.
générales, hein?
Mais oui. Je dirais que nous, moi, j'ai mis l'économie circulaire et l'éco-conception dans l'ADN d'Acuitis très très tôt, parce que je suis sensible à ces sujets personnellement. J'ai une femme qui dirige une société de prospective leader européenne et qui donc c'est des sujets sur lesquels on échange presque tous les jours à la maison. Et c'est maintenant une vague de fond absolument considérable dans la population. Et donc les gens qui pendant longtemps ont acheté sans s'intéresser à l'origine des objets qu'ils achetaient, de plus en plus, ils sont sensibles et ils expriment ces exigences. Donc, nous, chez Acuitis, On en a conscience depuis longtemps, mais je vois chez nos concurrents, nos confrères, ces sujets émerger et des propositions de produits ou de services qui tiennent compte de ces grands enjeux, que ça soit chez Écoutez Voir, chez Optique 2000, chez Chris aussi, ces enjeux sont pris en compte parce que il faut pas se leurrer, nos clients font remonter ces désirs. Et des entreprises comme les nôtres sont des entreprises de commerce et on sait très bien que les jeunes générations sont extrêmement sensibles à ces sujets, tant les jeunes générations qui forment nos équipes, hein, et les jeunes talents que l'on doit attirer et que l'on doit conserver, il faut leur proposer de participer à l'activité d'une entreprise humaniste et engagée sur ces sujets, comme les enjeux de conquête des jeunes générations de clients qui maintenant sont soucieux d'acheter des produits qui leur conviennent, mais dans des maisons qui sont respectueuses de ces enjeux RSE et qui sont sensibles à plein de choses, sensibles au prix, certes, mais aussi sensibles à la matière, sensibles à la fin de vie qu'on leur propose, qui veulent peut-être n'acheter que des produits de seconde main. Et donc, dans notre business model, il faut qu'on intègre dès demain, on y travaille, mais c'est un sujet très complexe à traiter, la possibilité d'offrir des produits de seconde main. Il y a aussi une loi importante où là, la France est leader hein, en matière de législation et de contrôle. On est vraiment champion du monde dans ce domaine, mais pour une fois, ça va dans le bon sens. C'est l'interdiction de détruire des stocks de produits manufacturés neufs. On avait été leader déjà dans ce domaine dans l'alimentaire, ce qui était formidable. Eh bien, il a été voté interdiction aux entreprises de détruire des stocks neufs. Donc, ces stocks neufs que souvent le commerce de la fast fashion produit en masse, hein, parce qu'on voit bien que les grands acteurs de la fast fashion génèrent presque 30 à 40% de leur production sera amenée à être obsolète à cause de la frénésie de nouveautés, de concurrence, de besoin d'innover et autres. Eh bien, il faut que ces produits, on leur propose une seconde vie. Hein, puisqu'on ne peut plus les détruire, on ne peut pas continuer de les stocker ad vitam aeternam. Et donc, il faut soit les diriger vers un marché de la seconde main, donc beaucoup plus accessible pour les gens qui en ont besoin économiquement ou pour les gens qui en font une philosophie de consommation. Et il faut aussi qu'on les dirige vers les populations qui en ont le plus besoin économiquement. Et puis, il faut qu'on puisse détruire intelligemment en les recyclant ces produits. Donc, alors, des enjeux que le marché entier a en tête.
Et donc, justement, vous parlez de marché, de réputation, etc. Vous êtes récemment lancé dans la labellisation RSE Positive Workplace. Pourquoi ? Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Alors, véritablement, ça a été la même démarche que quand on a réfléchi à la création de la fondation Héron chez Acutis. Alors, on l'appelait fondation Héron pour pas faire du humanitaire washing, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, comment notre société qui prétend être humanitaire et humaniste, comment peut-elle s'engager auprès des populations les plus défavorisées dans le monde en matière d'optique et d'audition. Et donc, on a créé la Fondation Héron pour projeter nos collaborateurs et notre savoir-faire et notre bienveillance sur des populations éloignées, comme en Afrique. Et donc, on est depuis plusieurs années maintenant proactifs dans l'amélioration de la vue pour les enfants et de l'audition pour les enfants comme pour les adultes dans un pays comme le Rwanda. Et le choix du Rwanda avait été un choix pour une entreprise française qui n'était pas évident à l'époque où on l'a pris. Eh bien, pour Positive Workplace, Notre action est tellement déjà engagée qu'on s'est dit il faut qu'on passe à un stade où tous nos engagements doivent être mesurés, comptabilisés, afin d'adhérer à ce mouvement qui est fondamental dans la certification. Parce que on est très prudent sur la communication pour pas faire de greenwashing. C'était la même philosophie pour la fondation. On s'interdit d'en parler. En fait, seuls ceux qui font des missions pourront témoigner de la fondation. Et donc, on a très peur aussi d'adapter notre communication et d'avoir le bon ton sur. Et la certification, là, elle est pour la population avertie. Elle est une espèce de crédibilité vérifiée. C'est pas du greenwashing. Ils ont bien des actions concrètes dans l'éco-conception, dans le management, dans l'inclusivité, dans la bienveillance par rapport à leurs clients, mais aussi par rapport à leurs collaborateurs. Et Positive Workplace nous a plu de par sa philosophie. Voilà. Et puis, merci. La proximité aussi avec une entreprise sœur dans le groupe Habitants fait que Châteauforme, qui est devenue maintenant entreprise à mission, était avant certainement certifiée. Je ne sais pas si elle était certifiée Positive Workplace, mais
elle a participé à la création du référentiel.
C'est ça. C'est en regardant aussi les entreprises leaders dans les autres secteurs qu'on s'est dit challenger une certification est fondamental. On fait déjà beaucoup de choses, on a encore beaucoup de progrès en matière de communication et d'information à toutes nos équipes, puisqu'on est 700 collaborateurs maintenant chez Acuitis avec plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est comme un produit. Si on a le plus beau produit, mais qu'on ne sait pas le lire, qu'on ne sait pas le communiquer, eh bien, on est en échec. Et donc, nous, l'éco-conception et notre bienveillance par rapport à nos collaborateurs, on est déjà très proactif dans ce domaine, mais il ne suffit pas de le dire, il faut aussi le démontrer. C'est un peu comme en amour, il ne faut pas seulement le dire, il faut des preuves d'amour. Et donc, c'est ce qui nous a motivé à vous rejoindre.
Très bien. On arrive à la fin de ce podcast, Frédéric. J'aime bien terminer ce podcast par une question simple. Si vous avez un conseil à donner à nos auditeurs, lequel serait-il ?
Alors, le conseil, je dirais, on le voit avec le salon de l'agriculture, on le voit avec les enjeux industriels, on le voit avec les enjeux économique et stratégique. On peut dire que cette prise de conscience écologique, elle pourrait présenter pour des entreprises à la fois industrielles et commerçantes comme les autres une malédiction parce que c'est des remises en question complètes. Et en fait, il ne faut pas voir le monde sous forme de malédiction. Les contraintes économiques, les contraintes budgétaires, les contraintes industrielles, les contraintes de management et les contraintes de génération sont pas une malédiction, elles sont une bénédiction parce qu'elles nous invitent à nous elles nous invitent à se poser des questions, à réinventer nos modèles, à être innovants, à être agiles. Et donc, il faut au contraire regarder ces contraintes, qu'elles soient réglementaires, industrielles, budgétaires ou autres, comme des bénédictions parce qu'elles vont nous obliger à inventer le modèle de demain.
Génial. Un grand merci, Frédéric, pour votre intervention. C'était passionnant. On a pu aborder beaucoup de sujets autour de l'économie circulaire et votre expérience et votre vision qui a évolué dans le temps, finalement.
Bien sûr.
Est un vrai modèle, je pense, pour nos futures générations. Donc, un grand merci, Frédéric, pour votre intervention. Et à très bientôt pour nos auditeurs. Merci d'écouter ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve pour le prochain rendez-vous le mois prochain. Merci beaucoup et à très bientôt.